Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue à vous pour ce temps de conversation en compagnie de Martin Mongin. Bienvenue à vous, cher Martin.
Merci, bonjour à tous.
Très heureux de vous rencontrer autour de ce livre qui s'intitule Francis Ricin et dans lequel on va plonger en essayant de comprendre comment vous avez composé ce grand roman qui est à la fois exaltant, fascinant, intrigant autour de ce personnage de Francis Ricin. C'est un livre, je vais essayer d'en dire un petit mot, même si bien sûr c'est au fil de l'avancée dans la discussion qu'on va comprendre avec quel mécanisme et avec quel fil narratif vous avez travaillé. Ce livre-là, donc, il porte un titre qui est aussi le nom du personnage principal, mais qui est à la fois un personnage principal, mais aussi une sorte de trou noir autour duquel on tourne tout au long du livre. L'idée est d'essayer de donner un portrait, une image finalement de ce personnage de Francis Ricin à travers une grosse dizaine, 11 chapitres précisément, qui répondent chacun à des registres littéraires différents. On va y venir, mais on commence d'abord avec une intervention dans un séminaire de littérature, on passe par des interrogatoires, des rapports de police, des archives diverses, une sorte de kaléidoscope comme ça de matériaux et d'éléments qui visent à donner à voir la personnalité de ce personnage insaisissable qu'est Francis Ricin, qui va petit à petit devenir une sorte de symbole de ce qu'on pourrait appeler l'homme providentiel ou de sorte de... Oui, l'homme providentiel, on reviendra peut-être sur ce terme, à travers une histoire qui part notamment d'une mise en avant de ce personnage à travers l'apparition de son visage, de son nom sur des affiches. Quelqu'un qui va petit à petit prendre le pouvoir, mais toujours avec ce rapport au réel, fiction, vrai, faux, qui est extrêmement présent au fil du livre, et puis aussi avec l'idée de la mise en abîme du personnage qui crée le personnage, etc. Enfin, tout un tas de questions qu'on va voir au fil de cette conversation. Et peut-être qu'on peut commencer avec une question extrêmement simple, finalement, sur le... Quand on a un gros livre comme ça, aussi touffu, aussi dense, avec autant d'idées de littérature, on se demande toujours quel a été le point de départ, finalement. Alors, je parle de cette figure de l'homme providentiel dont on va parler, qui est presque une dimension de fable politique, hein, contemporaine, qui nous éclaire sur le contemporain. Mais il y a aussi toute la dimension littéraire, la dimension de l'intégration dans une tradition littéraire. On va parler peut-être d'un certain nombre d'héritages qui sont les vôtres. Est-ce que le point de départ, c'est ça? C'est de travailler autour de l'image de l'homme providentiel? Ou est-ce que, finalement, la matrice du livre, elle est différente de celle-ci, elle est plus vaste? Peut-être vous pouvez commencer par nous dire un mot de cela. On est très intrigués de savoir comment vous avez démarré ce livre.
Oui, on m'entend bien. Oui, ça fait beaucoup de choses, là, peut-être. Mais avant de répondre à votre question, peut-être, je pourrais juste brièvement, parce que là, malgré tout, ça, vous avez eu l'occasion de dire des choses qui partaient dans plein de directions différentes, et de resituer un peu pour peut-être les gens qui n'ont pas lu le roman. Parce qu'on peut aussi le décrire de manière un peu plus simple et peut-être juste dire que le point de départ de cette histoire, parce qu'il y a quand même un peu une histoire qui file à travers les différents chapitres qui le composent, et donc c'est simplement des affiches qui surgissent comme ça, qui apparaissent sur les façades des maisons ou des immeubles, dans les campagnes, dans les villes. Et sur ces affiches, il y a simplement le nom Francis Ricin. Et personne ne sait d'où elles viennent, personne ne sait qui les a affichées là, personne ne sait qui est ce type non plus. On assiste finalement à une sorte de mouvement d'emballement où les gens dans les campagnes, les gens dans les villes, tout le monde se met peu à peu à se prendre pour avoir une sorte d'élan d'enthousiasme assez fort pour ce Francis Ricin, mais dont finalement on ne connaît que le nom, et progressivement encore à voir en lui une espèce de figure de celui qui va venir tirer le pays de la crise ou du marasme. Bon, voilà. Et donc évidemment, à mesure que ça s'emballe, ça commence à inquiéter un peu les autorités. Et puis on met des enquêteurs pour essayer de retrouver ce fameux Francis Ricin qui peut-être risque de faire vaciller un peu le pouvoir. Et sauf que si son nom apparaît partout sur toutes les façades du pays, c'est aussi un individu insaisissable que personne ne parvient à approcher ou à saisir. Voilà, peut-être pour
Je vous remercie d'avoir été plus clair que moi, cher Martin. Peut-être sur cette question, alors allons-y là-dessus, c'est-à-dire, je parlais d'une fable politique, est-ce que vous diriez que c'est une bonne manière de présenter le livre. Est-ce que cette dimension, en tout cas la figure de Francis Rissin, elle correspond aussi à un regard que vous portez aujourd'hui sur la société, à un certain nombre de ses travers, de ses obsessions? Comment est-ce que vous envisagez cette question-là?
En tout cas, fable politique, c'est assez joli, donc on peut le garder. Oui, c'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais c'est un roman moi, que j'ai écrit il y a déjà en fait un certain nombre d'années. Il a dû être achevé, enfin j'ai dû achever de l'écrire vers 2015 sans doute. Donc évidemment, moi j'avais pas forcément conscience de tout ce qui s'est passé dans l'intervalle, et donc c'est pas forcément un livre qui a vocation à décrire ce qui se passe là dans le présent aujourd'hui. Maintenant, j'ai l'impression que moi j'avais envie quand même de décrire un certain type de mécanisme dont j'ai l'impression que ils sont structurants de ce que c'est la vie politique en France. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, et avec quand même cette figure de l'homme providentiel ou du sauveur du pays ou du sauveur de la nation, tel que quand même il apparaît dans le dispositif de l'élection et exemplairement de l'élection présidentielle, quoi.
Et donc il y aurait une idée aussi de travail sur ce qui serait une forme d'irrationalité finalement, des obsessions, des accompagnements, des mouvements de la société. Est-ce que finalement toute cette dimension autour du Francis Rissin existant, n'existant pas, finalement le symbole étant peut-être plus important que la personne, est-ce qu'il y a une dimension de cet ordre-là, c'est-à-dire de montrer aussi un rapport de la société à ses obsessions contemporaines, à la notoriété indue? Enfin, comment est-ce que vous envisagez ces questions-là?
Peut-être que je pourrais dire que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le truc de se dire peut-être que, alors on sait que les individus ont un inconscient. On parle aussi du fait que les villes auraient un inconscient. Il y a notamment l'agence de psychanalyse urbaine là qui fait la psychanalyse des villes. Et moi, je m'étais dit. Est-ce que les pays n'auraient pas aussi un inconscient? Et si la France avait un inconscient et qu'on ouvrait un peu le rideau pour aller voir quelle figure il a, est-ce que ça ne pourrait pas donner Francis Rissin? Voilà. Donc c'est comme si c'était un peu une façon de donner chair ou de donner un visage ou peut-être même simplement un nom à cette espèce d'entité un peu de l'ombre qui se cache. Derrière l'idée qu'on peut se faire de la France, voilà, peut-être.
Et sur le personnage, on va revenir bien sûr à ces différents chapitres et à ces différents modes narratifs. Il y a l'idée aussi de la difficulté ou de l'impossibilité à circonscrire une personnalité, une identité, un destin, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéressait en tant qu'auteur, de choisir un personnage qui était presque impossible à circonscrire, ou en tout cas dont l'instabilité était une des données?
Oui, peut-être c'est une question difficile, mais oui, moi je trouvais ça important que, au bout du compte, mais alors je sais pas si c'est une façon de dévoiler un peu, mais qu'au bout du compte, ce Francis Rissin ou cette figure de l'inconscient français, elles finissent toujours par nous échapper quand même, quoi. Et que c'est au moment où même on croit l'avoir saisi que hop, on se rend compte qu'il nous échappe, ouais.
Sur l'écriture alors, et sur la composition, parce que vous savez que cette rencontre s'appelle Chantier de fouilles, l'idée est aussi de comprendre comment est-ce que vous avez travaillé, donc je vais évidemment vous laisser la parole là-dessus. Je disais que le livre commençait avec un chapitre sur le mode du séminaire universitaire, d'une prise de parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va peut-être rentrer dans différents détails, mais la manière dont vous avez composé ce puzzle, quels ont été les premiers axes développés, comment est-ce que vous avez travaillé à l'agencement en général? L'idée est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce que vous avez travaillé et produit ce livre. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de cette question de l'agencement, des différents registres et de la façon dont vous avez articulé j'ai parlé de kaléidoscope, je ne sais pas, on pourrait parler de puzzle, quelque chose de cet ordre.
Oui, peut-être on peut juste préciser que, donc vous l'avez dit, le premier chapitre, c'est en fait une prof, voilà, ça se passe à l'université, c'est simplement le déroulé du cours d'une prof de littérature comparée qui parle d'un livre qui s'appelle « Approche de Francis Risin », qu'elle a essayé de enfin, dont elle avait entendu parler et qu'elle a essayé de se procurer et qu'elle a jamais réussi finalement à retrouver, donc une sorte de livre comme ça un peu fantomatique. Dans le deuxième chapitre, on passe à tout autre chose, puisque le deuxième chapitre, c'est... ça se présente un peu comme des rapports de police, on va dire, où on décrit la prolifération d'affiches Francis Risin, comme ça, qui apparaissent de manière un peu spontanée dans le département de l'Ain. Le troisième chapitre, ça se présente un peu plus comme un polar. Le quatrième chapitre, ça décrit un peu la mise en place d'une exposition justement au Centre Pompidou autour de la figure de Francis Risin. Et donc, on a un type qui nous raconte pourquoi il a choisi telle ou telle photo, tel ou tel tableau, etc. Et puis après, le cinquième chapitre, on a une biographie. Bon, là, vraiment, c'est un roman mosaïque où... à chaque chapitre, on a l'impression qu'on recommence quelque chose à zéro, et en même temps avec des échos de ce qu'on a lu auparavant, et tout ça mis bout à bout, ça dessine quand même une sorte de de jeu de piste, quoi. Où à chaque fois, on arrive à assembler des éléments, mais aussi où il y a des choses qu'on croyait avoir assemblées qui se désassemblent, quoi. Alors après, sur la structure et l'agencement, moi, c'est un livre que j'ai imaginé. Ça fait le lien avec la question précédente, hein, mais un peu comme une pyramide. Donc, en effet, il est constitué de 11 chapitres. Et donc, il y a évidemment le chapitre central, le chapitre 6, qui est le pivot du livre. Et donc, c'est le haut de la pyramide. Et les 5 premiers chapitres, c'est des chapitres où, plus on avance, plus on a l'impression qu'on se rapproche du Francis Risin en question, quoi. Au départ, c'est juste... un titre de livre, ensuite c'est un nom sur des affiches, ensuite on découvre quand même que des gens l'ont rencontré et ont fait la fête avec lui dans un petit bled au fin fond du Massif Central, ensuite on se rend compte que quand même il y a une exposition qui lui est consacrée. Donc plus ça va, plus on a l'impression que en fait il existe pour de vrai. Et c'est pour ça que le chapitre 6 s'est présenté un peu comme des mémoires ou un journal intime qui serait de la plume même de ce fameux Francis Risin. Et peut-être que c'est là qu'on est au plus près de ce que serait l'intimité ou l'intériorité de cet individu. Et sauf que, ensuite, donc là on est en haut, et puis ensuite ça redescend, et à mesure qu'on avance dans la deuxième moitié du roman, et ben tout ce qui avait pris un peu corps ou qui avait pris consistance se délite au fur et à mesure, et tant et si bien que, in fine, on se demande, mais est-ce qu'on n'a pas rêvé, ou est-ce que tout ça c'était pas simplement une rumeur, ou bon voilà, et là où on croyait qu'il y avait vraiment quelqu'un, peut-être qu'en fait il y a personne, ou peut-être que oui c'était de la poudre aux yeux ou de la poudre de perlimpinpin. Et ça fait évidemment écho aussi à ce que je disais tout à l'heure sur la politique telle qu'elle peut se exister aujourd'hui avec ces personnes qui se mettent sur le devant de la scène en disant votez pour moi, c'est moi qui vais vous tirer de la crise, etc. Et où parfois on a un peu l'impression que derrière, oui, c'est des noms, c'est des visages, mais est-ce que derrière, c'est pas juste peut-être du vent, quoi. Voilà.
Alors, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que vous décrivez, c'est que c'est aussi, on est dans un festival qui travaille sur la question du réel, du rapport au réel, et c'est vrai que votre livre, c'est un livre quelque part d'enquête, ou en tout cas le lecteur a l'impression de suivre quelque chose de cet ordre, et qu'on est finalement dans une dynamique d'enquête autour de quelque chose qui n'a pas forcément de lien avec le réel, c'est d'appliquer finalement des méthodes narratives, des méthodes de d'élucidation presque du réel, avec finalement un personnage qui échappe sans arrêt. C'est-à-dire que l'enquête n'arrive pas au bout. Est-ce que c'est aussi dans ces paradoxes que vous avez construit le rapport à ce personnage central et à la fois insaisissable? Comment est-ce que vous expliqueriez ça, ce travail, notamment sur une enquête qui n'aboutit pas d'une certaine façon?
Peut-être moi j'ai l'impression que la dimension au réel, elle se joue pas tant dans qu'est-ce qu'on va finir par apprendre sur Francis Risin, et à la fin on aurait une sorte de CV ou de biographie où on arriverait à savoir vraiment qui il est. J'ai l'impression que la dimension du réel, elle se joue plutôt dans l'attachement que le lecteur peut ressentir assez vite pour ce type dont finalement il ne sait rien, qui est juste un nom comme ça qui se répand et qui rejoue. Moi, Je ne sais pas si je dirais que c'est ça que j'ai voulu décrire, mais peut-être que quand même, il y a ça dans le, dans le film. Il n'y a pas encore de film. Avis aux amateurs. Dans le livre...
C'est l'éditeur qui dit bientôt, c'est ça, non?
Oui, le truc de l'attachement affectif est que... J'ai l'impression quand même, pour en avoir parlé avec un certain nombre de lecteurs, que dans les premiers chapitres, lisant et découvrant cette histoire de Francis Ricin, on se prend soi-même de sympathie, d'affection pour ce type, parce qu'en effet, tous à l'endroit où on est, peut-être on a l'impression que le monde va mal, c'est la crise, on est dans le marasme, et qu'il y aurait peut-être besoin... Ou en tout cas, on se raconte, ou on a envie de croire qu'il y aurait besoin d'un type qui débarquerait comme ça du jour au lendemain sur son cheval blanc et il aurait la solution clé en main. Et voilà, et c'est évidemment ce que prétendent tous les candidats à toutes les élections possibles et imaginables chaque fois qu'ils montent sur la scène en disant c'est moi qui ai les bonnes recettes, c'est moi qui ai la solution miracle. Et alors même que l'expérience nous a appris qu'à chaque fois on s'est fait berner, c'est comme si... À mesure que ça se répète, il y avait toujours au fond de nous quand même un peu une envie de se dire ah quand même ce serait tellement plus simple que ce soit quelqu'un qui vienne nous tirer d'affaire au lieu de mettre soi-même les mains dans le cambouis quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que peut-être c'est le réel, il est là dans de réaliser que encore une fois on s'est fait un peu prendre au piège quoi.
Comment, c'est peut-être une question très bête, comment est-ce que vous avez choisi son nom? J'imagine que ça a beaucoup d'impact pour, évidemment, à la fois le destin que vous lui prêtez, c'est le titre de votre livre. Comment est-ce qu'on choisit un nom qui est à ce point-là significatif et signifiant, finalement, pour l'écriture, pour le livre une fois qu'il est édité, et pour voilà, ce qui deviendra un personnage de littérature?
Alors, peut-être je pourrais dire que moi, j'aime bien inventer des noms, voilà. Et par le passé, il m'est arrivé d'écrire un certain nombre d'essais qui non seulement ont été d'ailleurs publiés sous pseudonyme, sous des noms d'emprunt. Donc quand on écrit sous nom d'emprunt, il y a un peu le jeu de s'inventer d'autres noms. Mais en plus, dans ces essais écrits sous nom d'emprunt, toutes les références qui sont présentées, qui sont proposées, c'est aussi des fausses références avec des faux auteurs, des faux chercheurs, des faux, etc. Donc il fallait inventer plein de noms pour ça. Et moi, je trouvais ça, enfin moi, ça, j'aime bien ça. Et je trouve ça amusant le truc de comment parce que c'est pas si facile que ça d'inventer un faux nom qui ait l'air vrai quoi, voilà. Ou quand les gens l'entendent tout de suite on peut pas se douter que c'est un faux quoi. Et d'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a des gens c'est leur vrai nom et quand on l'entend on peut avoir l'impression que c'est pas des, ça il existe pas, enfin bon bref. Et donc là pour Francis Ricin c'était peut-être plus simple parce qu'il y avait quand même une série de contraintes. Moi, je voulais quand même qu'il y ait le signifiant France qui apparaisse dans son prénom. Donc, ça limitait un peu quand même le choix, d'autant que, pour un certain nombre de raisons, j'avais aussi envie que ce soit un homme. Donc, on avait François, on avait Francis. Il y a aussi Francisque qui existe, hein, qui a pu être donné par le passé, mais peut-être là, ça dévoilait trop de choses trop vite. Et il fallait aussi que les initiales, ça fasse FR, tant qu'à faire, voilà. Et donc FR, et puis il fallait peut-être que ça sonne un peu, donc qu'il y ait un peu un jeu d'allitération et de d'assonance. Bon, et puis il y avait ce truc du ricin, qui est à la fois l'huile de ricin, qui est à la fois le remède et le poison. Donc ça jouait bien aussi sur le truc de l'ambivalence du candidat qui se présente comme le remède à tous les maux, et qui donc quelques gouttes en fait s'avèrent être un poison voilà, terrible. Et puis d'ailleurs le ricin c'est aussi le nom qu'on donnait autrefois au tic. Voilà. Alors puis ça faisait Francis Ricin et je me disais que on serait pas étonné que quelqu'un nous parle de son voisin de palier en disant ah bah hier j'étais avec Francis Ricin, voilà, ça, j'ai l'impression que ça collait quoi.
D'ailleurs peut-être que Francis Ricin est dans la salle, il interviendra en fin de dialogue.
Mais quand même j'avais fait des recherches parce que vu que en effet le nom était très important. Si c'était le nom que quelqu'un portait, peut-être ça aurait été un peu embêtant, enfin, je sais pas. Donc j'avais quand même fait des recherches sur les pages jaunes ou sur les pages blanches, tout ça. J'avais découvert qu'il y avait quand même un ou deux Francis Ricin aux États-Unis, des vrais, qui se sont pas encore manifestés. C'est aussi pour ça que dans un chapitre, il y a des personnages qui vont faire des recherches aux États-Unis pour essayer de faire revenir les Francis Ricin américains sur le territoire français. Voilà. Mais jusqu'ici, oui, aucun Francis Ricin ne s'est manifesté. Et donc, on attend toujours que quelqu'un un jour nous appelle et dise C'est moi, voilà.
Je suis Francis Rissin. Peut-être revenir à ce que vous disiez, ce qu'on imagine, quelques raisons qui vous ont poussé à en faire un homme. Hein. On parle d'ailleurs de l'homme providentiel dans cette espèce de vocable un peu figé, mais qui dit des choses. Peut-être nous préciser aussi ce choix-là et la manière dont vous l'inscrivez dans la France d'aujourd'hui et peut-être dans une dimension de nouveau politique ou sociétale.
Ouais, c'est un sujet peut-être délicat par les temps qui courent, mais moi j'ai l'impression que cette figure de sauveur de la nation ou de celui, alors, mais, dont on pourrait parler aussi au féminin, hein, c'est celui ou celle qui s'imagine qu'il est la personne la mieux placée pour prendre en charge le destin d'un pays et résoudre tous les problèmes qui s'y posent. Moi j'ai l'impression quand même qu'il y a là-dedans une sorte de posture viriliste, on va dire, et dominatrice, même si c'est une femme qui se trouve l'incarnée, on va dire. Quoi. Voilà.
Sur le nom, on n'a pas parlé aussi de finalement ce qui est après un jeu sur les homonymes, sur les... Il y a aussi quelque chose qui se déploie finalement. On va parler du rapport à la société française, qui est quelque chose qui... Mais à partir de ce personnage-là, il y a quelque chose qui se déploie presque comme des cercles comme ça qui s'élargissent aussi sur la manière dont ça éclaire finalement plus globalement la société française, mais aussi un certain nombre d'autres personnages. Est-ce que vous l'avez envisagé vous comme ça?
Alors je ne sais pas si
le Francis Rissin, il est un symbole de la société, mais il est aussi notamment avec le chapitre 2 autour de ces affiches qui fleurissent ici et là. Un moyen d'explorer la société française dans la diversité de ceux qui y habitent, dans les angoisses qui traversent la société. Il est une espèce de déclencheur, de symbole, de finalement tout ce qui peut se produire dans la société d'aujourd'hui. Vous l'envisagez aussi comme ça, dans l'élargissement du symbole, Francis Rissin, si je puis dire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Si, après, sans doute, le roman, il ne brasse pas la totalité À mon avis, si on allait fouiller un peu dans l'inconscient français, on trouverait encore beaucoup d'autres choses. Et voilà, c'est pas le seul démon qui rôde derrière dans les coulisses, on va dire. Mais oui, sans doute quand même. C'est à partir, peut-être qu'à partir d'un prisme, encore une fois, et peut-être à partir d'un simple nom, d'un simple, on arrive à. Ouais, c'est comme si ça venait éclairer peut-être toute une série de... Bon, peut-être c'est pas une... Peut-être je réponds pas grand-chose en disant non, ça. Hein.
Moi, je vous propose des pistes, hein, des lectures. Vous en faites évidemment ce que vous voulez. C'est des impressions de lecture. Alors, on avait prévu, et puis finalement, on n'a pas mis en place l'aspect technique. Vous aviez prévu de nous apporter quelques documents dont on peut dire un mot même en leur absence, mais c'est presque finalement conforme à ce qu'on fait ici avec Francis Rissin, de cartes vraiment de France. Peut-être nous parler de cet aspect géographique, des raisons qui faisaient que vous aviez envie de nous montrer ces objets-là aussi pendant cette conversation, même si on ne les a pas sous les yeux. Peut-être vous pouvez développer un petit peu cette dimension-là.
Oui, alors peut-être il va falloir que là, vous imaginez un peu les choses. C'est que on m'avait demandé, ce serait bien qu'il y ait quand même des documents qu'on puisse visionner pour documenter un peu le roman et l'écriture du roman. Et donc au départ, j'avais pas vraiment d'idée. Et puis quand même sur le tard, j'ai pensé à des extraits de cartes IGN, là les fameuses séries bleues, les cartes de randonnée que vous connaissez peut-être. Donc si vous fermez les yeux, il faudrait que vous imaginiez la carte IGN avec Ruine en Margeride dans le Cantal. Ou avec Jocelyn dans le Morbihan, voilà. Donc c'est ça qui aurait dû apparaître sur l'écran. Oui, alors peut-être c'est que c'est un. Moi j'aime bien la géographie, j'aime bien aller me perdre, on va dire, dans les replis de la géographie, en France et à l'étranger, mais en France. Et ce roman, il a aussi une vraie dimension géographique dans le sens où on voyage en le lisant, et il y a, y a évidemment des chapitres qui se passent à Paris, mais il y a des chapitres qui se passent dans l'Ain, il y a des chapitres qui se passent en Camargue, il y a des chapitres qui se passent en Bretagne. Et c'était aussi une façon de faire un peu un tour d'horizon de la géographie française avec ses paysages, avec ses terroirs, ses mille et un villages, avec des noms qui chaque voilà, c'est quand même. Moi, quand j'ouvre une carte IGN, je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça, mais juste de lire les noms des villages et des lieux, on voyage, c'est déjà l'esprit part, quoi. Et moi, je trouvais ça chouette aussi de... Bon, on dit souvent, voilà, c'est la littérature américaine, c'est la littérature du voyage, la littérature de la fuite, la littérature des grands espaces. Et moi, je trouve ça amusant de se demander, tiens, mais qu'est-ce que ce serait une grande épopée géographique, mais qui se passerait, voilà, au pays des 300 fromages, voilà.
Oui, il y a une sorte de poétique des noms aussi, enfin, de poétique des lieux, de l'esprit des lieux, de la toponymie en réalité. C'est ça aussi qui vous intéresse dans l'aspect géographique, c'est-à-dire ce qui sonne. On parlait de Francis Risson, ce qui, à un moment donné, existe presque d'un point de vue, oui, je ne sais pas si on doit dire phonétique, poétique, quelque chose de cet ordre.
Oui, vraiment, ouais, c'est la sonorité des noms de lieux, moi, à laquelle je suis assez attaché. Mais c'est aussi amusant dans le sens où, moi, il y a beaucoup d'amis ou de proches qui ont lu le livre et chacun se disait « Ah, mais tiens, tu connais tel petit bled ou tel lieu-dit voilà. » Et normalement, chacun est censé y reconnaître un lieu de son enfance ou l'endroit où il a fêté son mariage ou l'endroit où, je ne sais pas, bon, voilà, normalement, chacun doit... Voilà, j'ai pensé à tout le monde.
Peut-être encore quelques questions avant de donner, bien sûr, la parole au lecteur et au public. Peut-être nous parler un petit peu quand même de la manière dont, en tant qu'écrivain, vous avez envisagé aussi ces différents chapitres avec presque des genres ou des registres à chaque fois. Vous avez parlé de l'interrogatoire, le séminaire, le journal ou la biographie. Pour vous, c'était une manière de rendre compte des différentes manières d'approcher une personnalité, ou est-ce que c'était aussi un jeu simplement sur l'écriture, sur la langue, sur le lexique, sur le rythme? Comment ça se passe, cette envie-là? C'est une dimension ludique ou c'est une dimension de complémentarité finalement par rapport à l'approche de ce personnage et de ce que vous voulez dire dans le livre?
Moi, je crois que c'est quand même d'abord une dimension ludique. Et pour moi, l'activité de l'écriture, c'est une activité... Oui, il y a quand même vraiment un truc de l'ordre du jeu. Et c'est le jeu d'inventer des noms. C'est le jeu aussi de comment est-ce qu'on peut s'amuser à perdre un peu le lecteur et à jouer avec lui. Et donc là, le truc des différents registres, quand on passe d'un chapitre à l'autre, c'est aussi que moi, dans ma vie de lecteur, il m'arrive aussi bien de lire des polars que de la science-fiction, que des essais, que que de la littérature blanche ou que sais-je, ou des articles de presse. Et presque plutôt que de me dire « Ah bah tiens, maintenant j'écris, je vais faire un polar ou je vais faire un roman fantastique », je trouvais ça presque aussi plus juste, vu moi mon histoire et ma vie de lecteur, que dans ce que j'écris, eh ben on retrouve des facettes de moi, toutes les choses que je lis et que j'aime lire. Et bon, voilà, ça fait aussi écho avec moi, mes lectures, mes références. Bon, je sais pas, c'est aussi un jeu, oui, un jeu un peu avec moi-même. Quand même.
Et quand même avec l'histoire littéraire, parce que, enfin, c'est peut-être très, très facile et très bêta, mais on se met tous finalement des références en tête. Quand on lit cette entrée de livre, on a l'impression d'être chez Borges ou d'être chez Julián Ríos ou d'être chez des auteurs qui ont placé aussi ce jeu sur le livre dans le livre, la mise en abîme, le personnage dans le personnage. Est-ce que finalement vous diriez qu'à chaque endroit, il y a une figure tutélaire ou en tout cas quelqu'un à qui vous vous ramenez, même si c'est un peu lointain, même si c'est un peu inconscient? Comment vous envisagez cela?
Oui, si, sans doute. Après, on peut imaginer que c'est aussi par des processus inconscients. Hein, quelquefois, c'est étonnant, c'est même a posteriori qu'on se dit « Ah ben tiens, c'est rigolo, tiens, ce chapitre-là, c'est à la fin de l'écriture qu'on découvre quel est l'auteur ou quel est le roman qui a pu l'inspirer. » Quoi. Oui.
Mais ce sont des choses qui, aujourd'hui, pour vous, sont simplement... des choses qui vous ont accompagné dans l'écriture, qui n'ont pas une signification particulière dans le livre, c'est-à-dire qui ne veulent pas se raccrocher à ou se rapprocher d'une histoire littéraire donnée pour s'inscrire dans une filiation. C'est quelque chose qui vient au moment de l'écriture.
Ouais, après, malgré tout, c'est aussi un livre. Alors, on a parlé de la dimension politique, on a parlé de la dimension géographique. C'est aussi un livre un peu sur la création. De manière générale, alors on peut évidemment la création littéraire, mais même qu'est-ce que c'est créer quelque chose et donner vie à quelque chose. Et il y a tout ce jeu un peu autour du thème de la créature qui échappe à ses créateurs quand même. Comme d'ailleurs on peut le retrouver dans le domaine politique. Hein. Un candidat à des élections présidentielles, c'est aussi une créature qui a été presque fabriquée de toutes pièces, avec du marketing, avec on lui fait une image, on lui fait avec du storytelling, etc. Et il y a vraiment ce truc. Bon, après, c'est les classiques de Frankenstein ou le golem, bon, avec tous ces mythes-là, de la créature une fois lâchée dans le monde. Et là, en l'occurrence, la créature, c'est juste Francis Ricin, et c'est peut-être rien de plus que ce nom-là, et quels sont les dégâts qu'elle va pouvoir occasionner dès lors que ceux qui l'ont créée n'ont plus de contrôle sur elle. Quoi.
Et c'est quand même amusant d'avoir cette discussion ici même, c'est-à-dire que c'est presque la mise en abîme supplémentaire, avec effectivement cet expo-événement qui est consacré à Francis Ricin, ici au Centre Pompidou, c'est-à-dire que là, on continue la mise en abîme de la mise en abîme. C'était quoi pour vous cette expo ? C'est un regard sur l'art contemporain, c'est un regard sur la manière dont finalement les différentes parties de la société sont des relais aussi peut-être des obsessions ou des névroses de la société. Comment est-ce que vous avez envisagé ce moment-là et comment vous envisagez le fait d'aujourd'hui discuter de cela à l'endroit où vous avez créé cette chose-là ?
Oui, c'est une question difficile peut-être, mais...
Je vous embête avec des questions...
Non, mais c'est... Mais en effet, il y a tout un chapitre qui consiste, je l'ai déjà dit, en la description d'une exposition événement autour de Francis Ricin, donc dans le Centre Pompidou, et avec... avec une femme, voilà, je sais pas dans quelle mesure je dois dévoiler un peu ce qui s'y passe ou pas, mais avec une fin, on va dire, en tout cas haute en couleurs et un événement un peu grand guignolesque qui achève un peu le montage de cette exposition-là. Pourquoi c'est le Centre Pompidou qui est venu dans le moment de l'écriture ? Ben, ça, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Mais j'imagine que, encore que là, c'est plutôt le château de Versailles qui est redevenu un peu à la mode chez les hommes politiques, mais je pense que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est sans doute le Centre Pompidou où des grands événements auraient été organisés. Bon, voilà, hein, c'est Jack Lang, Mitterrand, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de charge symbolique qui se jouait, qui y avait ici, qui n'est pas la même chose que le château de Versailles, quoi.
Hein. Pas tout à fait.
Pas tout à fait, non. Mais même si, on pourrait en discuter tout à l'heure.
Peut-être encore une ou deux questions, parce que c'est vrai que ce qui est... J'ai dit en introduction, j'ai fait une introduction peut-être un peu complexe ou brouillonne, et encore une fois, je vous remercie de l'avoir clarifié. Mais ce qui apparaît pour le lecteur que je suis, et je pense pour l'ensemble des lecteurs, c'est aussi la profusion de ce livre, son originalité, sa singularité dans le traitement, et c'est vrai qu'on a envie de savoir d'où ça vient, tout ça. C'est-à-dire que vous avez évoqué un parcours précédent, fait d'essais, écrit sous pseudonyme, avec des références fausses. Qui est Martin Mongin en réalité ? Comment vous êtes arrivé à faire ce truc ? Est-ce que vous vous appelez Francis Ricin ? Non, mais... C'est un endroit, c'est-à-dire que votre vie d'écriture, d'essayiste, de romancier, elle passe par ce jeu permanent sur le vrai et le faux, sur le masque, sur les... Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cela ?
Mais j'aimerais bien, hein, parce que c'est sans doute on touche des choses un peu, de l'ordre de l'intime. Et c'est vrai que moi, mon activité d'écrivain, elle a beaucoup tourné autour de ce truc-là, le pseudonyme, le masque, les noms d'emprunt, le truc d'avancer un peu masqué, mais aussi le truc de... Moi, c'est quand même un... Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. Alors, c'est un parti pris, hein, mais que peut-être que je pourrais dire que j'ai l'impression que la fiction, elle est jamais... Enfin, moi, je la trouve jamais aussi intéressante que quand... Elle nous fait nous demander, tiens, mais est-ce que vraiment c'est de la fiction en fait ? Et ce jeu de cette espèce de fil du rasoir où le lecteur ne sait plus si c'est de la fiction ou si c'est la réalité. Et on progresse comme ça un peu sur une sorte de ligne de crête, hein, comme les personnages dans le chapitre 9. On marche sur une ligne de crête et on ne sait pas si c'est de la fiction, donc si c'est de l'ordre de l'imaginaire, on ne sait pas si c'est la réalité brute. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est que cette ligne de crête, elle est importante pour comprendre beaucoup de choses, en fait. Mmh. Et que peut-être jamais le réel... Alors là, c'est pour revenir au festival Effraction, mais peut-être que jamais le réel n'est aussi intelligible que quand il se donne à travers la fiction, non ? Et que, quelquefois, une fiction nous apprend beaucoup plus sur le, ou en dit beaucoup plus sur le monde que un essai universitaire ou un long article de presse. Et voilà, moi j'ai l'impression que la fiction, elle est plus complète parce que c'est pas juste une collection de faits ou d'informations, mais parce que la fiction, elle engage aussi nos affects et nos émotions sur le réel, et qu'en fait, le réel, il est fait aussi et peut-être d'abord de ça, quoi. Mmh. Voilà.
Oui, et puis il y a cette idée quand même de la présence-absence. Enfin, pardon, puis après je vais donner la parole au public. Il y a quand même cette idée que finalement, il y a aussi... Vous détruisez des choses que vous construisez. C'est-à-dire que vous essayez de donner à voir une personnalité dont vous donnez toutes les preuves de l'inexistence, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un jeu de construction-destruction aussi d'un réel ou de quelque chose qui pourrait être un pacte de lecture avec le lecteur. Je vous embête encore avec une ou deux questions.
Non, elle est bien, celle-là.
Il aura fallu attendre.
Non, mais moi j'ai l'impression que justement, c'est peut-être parce qu'il y a ce jeu de construction-destruction et que à la fin, en fait, on dit mais Francis Ricin, c'était une blague, voilà, que c'est presque pour cette raison-là que quand on referme le livre, on n'est pas convaincu encore, quoi. Et peut-être que si j'avais voulu, voilà, aller jusqu'au bout de dire mais si il existe, je vous assure, et à la fin on refermera le livre en disant ah bah oui bon c'était voilà c'est rigolo c'est un canular. Et là parce que on sème tout le temps le doute est semé en fait, et c'est la raison pour laquelle le doute il persiste même une fois que le livre a été refermé, quoi. Hein, peut-être. Enfin.
Il me semble. Dernière chose, peut-être, parce qu'on l'entend là, il y a aussi toujours une distance, une ironie, une forme d'humour. Enfin, c'est un livre qui fait sourire, qui fait rire à certains égards. Est-ce que ça, c'est un rapport que vous aviez envie de mettre aussi, une sorte de distance qui est liée, oui, je ne sais pas si on doit dire à l'humour ou à une forme de distance un peu ironique, quelque chose qui se situe à cet endroit-là. Est-ce que je vous vois un peu perplexe quand je dis ça ?
Non, vraiment, oui, c'est que... Moi, j'ai aussi une pratique, on va dire, de l'écriture à travers la satire ou le pamphlet, des choses, où l'humour sert. Je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, qui mettent l'humour et le rire et les effets comiques un peu au centre de l'écriture. Et alors, ça ne vaut pas pour tous les chapitres, mais il y a un certain nombre de chapitres de Francis Ricin, oui, où j'espère que qu'on s'est bien marré en les lisant, j'espère.
Je vous le confirme. Ouais. Je vais m'arrêter là, je vais donner la parole au public. Il reste une grosse dizaine de minutes, si vous voulez peut-être échanger avec Martin, peut-être sur ce qui a été dit, et puis peut-être sur d'autres questions que vous auriez à la suite de cette conversation ou à la suite de votre lecture du livre. Oui, allez-y.
Est-ce qu'il vous a pris beaucoup de temps à écrire ce livre ?
Oui, quand même. Hein. Donc c'est quand même ce qu'on appelle un pavé. Voilà. Enfin, je sais pas à partir de combien de pages un livre est un pavé. Hein. Donc, mais c'est, en fait, c'est dur parce que, enfin, c'est dur d'y répondre dans le sens où, mais j'ai peut-être mis 2 ans, mais voilà, c'est pas 2 ans à plein temps non plus. Mais voilà, en termes d'heures, je me rends pas compte. Sachant aussi qu'une fois que le livre est terminé, moi, j'ai un peu cette cette névrose faisant que aussi longtemps qu'il n'est pas édité, voilà, aussi longtemps que le livre n'existe pas sous sa forme d'objet livre, eh ben, je suis tenté d'y revenir et donc de le relire incessamment, 10 fois, 20 fois, de changer une ligne, de changer une phrase, de rajouter un truc, d'en enlever un autre. Donc en fait, ça s'est étalé sur peut-être 5 ans. Voilà.
Avec un travail éditorial qui a été fait ensuite, ou de réagencement, de peut-être de d'élagage, non
pas, ah, oui, un peu, ouais. Un peu d'élagage, ouais. Mais pas tant, hein. Enfin voilà, bon, il faudrait en parler avec Michael et Carmela des éditions Tusitala, voilà, que je salue au passage. Mais oui, mais voilà, il a fallu enlever quelques dizaines de pages, mais globalement, la trame était, tout était en place et il y avait peut-être quelques longueurs, et j'étais d'accord avec ça d'ailleurs. Oui.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Oui.
Bonjour. J'ai une question que j'aime poser aux écrivains que j'ai la chance de rencontrer, qui peut paraître atypique. C'est tout simplement, est-ce que vous avez un processus, une façon de vous mettre dans, comment on peut dire, une certaine ambiance dans laquelle vous devez vous poser pour commencer à écrire, est-ce que vous avez des rituels, parce que je trouve que ça peut dénoter une façon assez particulière dans la façon qu'un livre est mené dans sa narration. Je pense qu'on peut y lire beaucoup de choses entre la façon dont est écrit le livre et la façon dont il est narré.
Merci pour cette excellente question. Non, je trouve que c'est vrai que on nous interroge, on interroge rarement les gens qui écrivent des livres sur vraiment la mécanique très matérielle et matérialiste de comment se passe le moment même de l'écriture. Et donc peut-être pour y répondre rapidement. Je pourrais dire d'abord, moi dans le rituel, il y a le thé, voilà, et donc la question, c'est peut-être pas tant combien de temps j'ai mis à l'écrire, mais combien de litres de thé ont été avalés, voilà, et j'ai noté ça de manière très précise, je pourrais vous donner les informations. Il y a le thé, et pour moi, il y a la musique aussi, et je peux pas écrire un livre sans écouter de la musique en même temps, et là même pour Francis Rissin. J'avais une sorte de playlist, on va dire, et il y avait un morceau qui correspondait à chaque chapitre, un morceau très précis, et il me suffisait, du coup c'était très pratique, il me suffisait donc quand j'écrivais tel chapitre, il y avait le morceau en question qui tournait vraiment en boucle, hein, donc quand c'est un morceau de 6 minutes, il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, donc à la fin, voilà. Mais il me suffisait, c'était très pratique, de remettre le morceau et immédiatement j'étais replongé dans l'ambiance du chapitre et hop, ça recoulait de source, voilà.
Vous les avez en tête pour le premier chapitre par exemple ?
Oui, mais c'est une playlist qui est tenue secrète.
C'était ma dernière question, c'est promis. À vous.
Alors moi, ma question porte sur l'après. Est-ce que vous suivez ce qui se dit, ce qui s'écrit sur votre roman ? Est-ce que des lecteurs viennent vous en parler ? Et est-ce que vous êtes surpris de la façon dont il est parfois reçu ?
Alors, est-ce que je suis ce qui est dit sur le roman ? Oui, bien sûr, avec grand intérêt. Et je remercie encore une fois mes éditeurs qui me transmettent chaque compte-rendu sur blog, chaque article. Et voilà, donc là, j'ai une revue de presse actualisée jour après jour, extrêmement précise. Donc, c'est très précieux d'avoir ça. Est-ce que je suis... Peut-être, je ne sais pas, c'est quand même un premier roman, donc il y a quand même un peu la surprise du fait que ça plaise et que un peu ça marche, on va dire, d'autant que ça a mis un peu de temps avant de se lancer. Après, je ne crois pas jusqu'ici d'avoir discuté avec quelqu'un et de me dire « Ah ouais, voilà, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait y voir ceci ou cela. » Ça, je ne crois pas encore, non. Non, je trouve que par contre, c'est toujours... c'est extrêmement enrichissant d'apprendre qu'est-ce que chaque lecteur y a vu. Et moi, j'ai l'impression que j'en découvre à chaque fois un peu plus sur... Mais c'est même très étonnant. Moi, j'ai l'impression d'avoir compris ce que j'ai voulu faire et écrire seulement à la fin. Donc, en fait, c'est pas du tout au début où on saurait d'avance qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, mais c'est seulement rétrospectivement que ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai passé mes deux dernières années à faire. Ah oui, bon. Mais en plus, c'est via les comptes rendus ou les remarques des lecteurs que cette compréhension s'affine au fur et à mesure. Et voilà. Et global, enfin, moi j'ai toujours été très satisfait des retours qui m'ont été faits et j'ai l'impression d'en savoir plus à la fois sur le livre, sur mon activité d'écriture et presque sur moi-même aussi, quoi. Voilà, c'est une sorte de psychanalyse collective.
Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, vous pouvez retrouver Martin juste là à la librairie, hein, pour un petit temps de signature et puis de discussion plus informelle. Et puis, je voudrais préciser que vous disiez à l'instant que le livre marchait, et je crois que c'est une évidence, que vous êtes aussi le lauréat là, du prix Effraction de la SGDL, et qu'il y aura de nouveau un temps de rencontre ou de discussion demain, c'est bien cela ? Vous avez l'horaire ?
C'est ça, demain à 18h, là, dans le hall. Hein, qu'on appelle la grande scène, non ?
Oui, voilà, juste derrière. Donc voilà. On pourra vous retrouver à cette occasion. Voilà.
Ainsi, avec Michael Demetz, hein, des éditions Tusitala, qui sera
on
là.
On peut
aussi
saluer aussi, parce qu'en plus, le livre objet est très beau. C'est un livre très réussi. Donc voilà. On vous retrouve tout de suite pour un petit temps de dédicace,
Parfait,
si vous le voulez
beaucoup.
Bien. Et merci encore à vous de votre écoute. Merci de votre présence. Voilà.